Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Psaume 104, versets 10 à 24. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Il abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elle et font retentir leur voix parmi le feuillage. De ses hautes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains. Pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, et les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damas. Il a fait la lune pour marquer les époques, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, et il fait nuit. Alors tous les animaux de la forêt se mettent en mouvement, les lions se rugissent après la proie, pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent, et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage, et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Et la deuxième lecture, toujours dans les psaumes, cette fois psaume 139, versets 7 à 10. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Et la troisième lecture, cette fois dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Voilà, c'est donc en comptant sur l'Esprit Saint que nous allons nous mettre à l'écoute de ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Et nous lisons dans le livre des Proverbes, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Le 11 septembre, nous avons commencé ce sujet de la joie de craindre Dieu. Et nous allons poursuivre aujourd'hui sur ce même sujet et donc terminer, puisque c'était une mini-série de deux prédications sur ce sujet. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Alors pour ceux qui étaient là le 11 septembre, je pourrais venir maintenant vers vous et vous demander, puisqu'on en a parlé le 11 septembre ensemble. Et vous vous souvenez que c'est un mélange d'attitudes et de sentiments. Hein, c'est pas quelque chose de tout simple, c'est un mélange d'attitudes et de sentiments dans lesquels on retrouve la peur lorsqu'on pêche. Oui, elle fait partie, c'est vrai. La peur lorsque l'on pêche, le respect, l'admiration et l'émerveillement devant Dieu. Voilà ce qu'est la crainte de l'Éternel. Nous voyons clairement cela, par exemple, lorsque Jésus a calmé la tempête, les disciples éprouvent de la crainte, de la peur même, mêlée d'un émerveillement et de respect. Ou Ésaïe face à Jésus-Christ qui se manifeste dans le temple, hein, vous vous souvenez dans Ésaïe 6. La grandeur et la sainteté de Dieu nous poussent à une juste crainte de Dieu dans la joie. Et nous allons continuer aujourd'hui à voir quelques éléments de « mais qui est celui que nous craignons avec joie ?» Et les deux éléments promis étaient de voir sa sagesse et son amour, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour continuer à nous stimuler à craindre Dieu avec joie. Et ensuite nous verrons quelques éléments utiles pour nous aider à répondre à la question « mais comment craindre joyeusement Dieu dans nos vies hein ?» Donc qui est celui que nous craignons avec joie? Sa sagesse, en fait, se voit particulièrement dans sa création. On a lu un texte là dans le psaume 139 qui revient régulièrement quand on parle de la création et qui dit c'est toi qui m'as formé dans qui a formé mes reins, pardon, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139 verset 14. Et pour vous aider à comprendre que vous êtes vraiment une créature merveilleuse, j'aimerais vous parler de deux, trois éléments de notre corps. Par exemple, notre cœur. Saviez-vous que le cœur humain bat 100 000 fois par jour? C'est pas mal. 100 000 fois par jour. Ça représente, pour ceux qui sont déjà arrivés à 70 ans, 2,5 milliards de pulsations à cet âge-là. Et après, ça continue en plus. C'est phénoménal. Sur la durée de vie, le cœur pompe ainsi de quoi remplir de liquide tout un gratte-ciel. En fait, avec 70 pulsations par minute, si on prend comme ça 70 pulsations, le sang pompé ou expulsé chaque jour est donc de 7000 litres. C'est pas mal, hein? Ça veut dire quoi 7000 litres? Bon, vous avez peut-être déjà vu une baignoire. Vous avez déjà vu une baignoire? C'est 40 baignoires pleines en une journée. Ça, c'est notre pompe, là. Quand on commence à dire « je suis une créature merveilleuse », c'est la réalité, c'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec le sentiment que j'ai de comment je m'aime. Nous sommes une créature merveilleuse. Le sang circule dans notre corps à travers des réseaux multiples et des ramifications qui ne comptent pas moins de 2500 kilomètres d'artères, de veines et de capillaires. Soit la distance de Neuchâtel à Moscou. Et même, c'est pas assez, parce que c'est 2335 kilomètres, je crois. Donc, c'est 2500. Donc, voilà, c'est plus loin que de Neuchâtel à Moscou. Donc, tous nos vaisseaux sont... Non, mais c'est juste extraordinaire, ce qu'on a dans notre corps. Le corps pompe est une pompe. Et ça, les ingénieurs, ils aiment bien. Parce que les ingénieurs, ils essayent de faire des choses qu'on doit pas entretenir, qui fonctionnent tout le temps. Eh ben, le cœur est une pompe qui nécessite aucun entretien dans la plupart des cas et fonctionne pendant toute une vie sans pièces de rechange. Oh, je pourrais continuer avec d'autres éléments. Bien sûr, les reins qui traitent 15 fois le volume total du sang en une heure. Ah, vous avez checké, là? C'est énorme. Encore les organes de tous les sens, comme l'œil, ce système de vision complexe, qui nous permet de recueillir plus de la moitié des informations en provenance de notre environnement. Plus de la moitié, c'est par l'œil qu'on les reçoit, en fait. Sans parler de la complexité de chaque cellule, qui contient par ailleurs une chaîne ADN qui permet un fonctionnement harmonieux, etc. Savez-vous d'ailleurs que le réseau d'information de notre corps est bien plus dense que tous les réseaux de communication au monde? On a un réseau nerveux dans le corps qui est juste phénoménal. Mais quel rapport y a-t-il entre ces renseignements fascinants sur le corps et la crainte de Dieu? Eh bien, c'est une illustration parmi des milliers d'autres empruntées aux immenses ressources de la création, qui nous offre la démonstration de l'infinie sagesse de Dieu. Cette sagesse qui va nous pousser à nous émerveiller. Vous vous souvenez de James la dernière fois? James, c'était le militaire là avec son général. Eh bien, quand il a commencé à être avec le général et voir la sagesse avec laquelle il conduisait ses troupes, il a commencé à l'admirer, le respecter. On a vu que cette crainte a changé, n'était plus juste la crainte de quelqu'un qui était plus grand que lui, mais tout à coup de l'émerveillement des capacités qu'il avait. Dieu est sage, intelligent, infiniment supérieur à tous les cerveaux humains réunis, même si on mettait encore tous les ordinateurs du monde. La puissance de calcul, ceux qui travaillent dans le domaine, la puissance de calcul. Mais Dieu est au-dessus de cela. Et c'est ce Dieu que nous servons. Et nous ne l'admirerions pas. Nous ne le respecterions pas. Nous ne lui ferions pas confiance. Afin de continuer dans cette admiration, j'aimerais relire le passage dans le psaume 104, qui est en fait une galerie de tableaux divins. Alors, si vous ne l'avez pas remarqué avant, j'espère que maintenant vous allez le remarquer. C'est une galerie de tableaux divins et nous allons le relire. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, comme ça ce n'est pas juste vos oreilles qui entendent, mais aussi vos yeux qui peuvent lire. Ça permet aussi là de mieux le saisir. Donc, psaume 104, on va lire le verset 1, qu'on n'a pas entendu tout à l'heure parce qu'il me semble aussi important ici. Et c'était juste avant, donc c'était lu comme j'avais demandé. Donc, le psaume 104, le verset 1 qui dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Verset 10. Alors là, c'est les tableaux là. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Vous pouvez un peu imaginer tout ça, hein. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles, elles font retentir leur voix parmi le feuillage. De ces hautes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains, pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour le bouquetin. Les rocs sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les époques. Le soleil sait quand il doit se lever. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors, tous les animaux de la forêt se mettent en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. La sagesse de Dieu. Et elle se manifeste dans nos vies également. De manière toute particulière. Si on a lu Romains 8, 28 avant, c'est parce qu'en fait c'est en lien avec cette sagesse de Dieu. Un texte qui n'est pas toujours compris d'ailleurs, hein, parfois. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et cela nous ramène en fait au mystère de la providence divine. Comment toutes les choses, les bonnes et les mauvaises, les grandes et les petites, peuvent-elles concourir à notre bien? Alors ce que Romains 8, 28 appelle bien est défini dans le verset 29. Donc, je vous encourage toujours, quand vous lisez Romains 8, 28, c'est très bien, mais ne le lisez pas sans le verset 29, sinon vous ne comprenez pas quel est le bien dont il est question ici. Et le bien dont il est question ici, c'est de devenir semblable à l'image de son Fils. Chacun de nous a une notion du bien qui lui est propre, mais qui n'inclut en général pas les difficultés et les peines. Quand il y a des difficultés, on ne dit pas que c'est bien. Or, le psalmiste dit, par exemple, dans le psaume 119, « Il m'est bon d'être humilié ». Je continue. « Afin que j'apprenne tes statuts. » Une raison. S'il n'y a pas de raison, ça serait un petit peu... C'est pas dans le sens qu'on aime ces notions, mais c'est qu'on aime le résultat. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit quant à lui, « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Chapitre 12, verset 10. Dieu fait en sorte en fait que tout événement, toute circonstance de notre vie, toute correction, toute épreuve incluse, concourt à notre bien. C'est-à-dire... nous amène à ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Chaque événement de notre vie, chacune de nos actions, tout ce qui peut nous arriver, ça commence à être impressionnant tout ça, hein. Chaque événement de notre vie, chacune de nos actions, tout ce qui peut nous arriver, s'intègre de façon mystérieuse dans un canevas qui nous rend toujours plus semblables à Christ. Donc, tout ça s'intègre d'une façon mystérieuse à l'intérieur d'un canevas qui nous rend toujours plus semblables à Christ. Est-ce que nous réalisons la sagesse immense qu'il faut à Dieu pour cela? Une sagesse immense. Mais ces événements se comptent par millions chaque année et c'est Dieu qui les orchestre tout pour notre bien. Nous avons vu la dernière fois Isaïe 40 qui évoque l'infinie grandeur de Dieu. Et dans le même passage, nous avons vu quelques questions telles que « Qui l'a instruit ?» Qui a-t-il consulté? En voyant la complexité de la création de notre corps, qui aurait pu conseiller le Seigneur pour l'aider à concevoir pareille merveille? Vous? Moi? Quelle question absurde, non? Et pourtant, nous ne cessons de vouloir conseiller Dieu dans son œuvre providentielle. Nous nous entêtons à lui expliquer comment il devrait combiner les circonstances de notre vie. Pire encore, nous mettons sa sagesse en doute lorsque nous ne comprenons pas son cheminement. Dieu réclame notre confiance, pas nos conseils. Dieu réclame notre confiance, pas nos conseils. Bien entendu, il entre dans une relation intime avec nous. Et nous pouvons lui parler, lui dire tout ce qui est sur notre cœur. Et c'est bon de le faire. Et nous le faisons dans une crainte joyeuse. Vous savez, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi et comment un Dieu qui nous dépasse tellement par sa grandeur, sa sainteté, sa sagesse, s'abaisse jusqu'à nous. Et même qu'il vient nous parler, et même qu'il nous écoute. C'est phénoménal. Je peux juste vous dire, vous, d'écouter une petite fourmi, là. Pas qu'une, mais beaucoup. Enfin, un pou, si vous voulez. L'une des caractéristiques de celui qui craint Dieu, c'est sa confiance en lui. Dans le psaume 147, il dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Or là, la question qu'on peut nous poser, c'est quelle est notre réaction face aux circonstances de notre vie ? Croyons-nous que chaque situation pratique dans notre vie est un élément utile, orchestré par la sagesse de Dieu pour nous apprendre à ressembler à Christ ? Les éléments positifs pour nous encourager et nous pousser à la reconnaissance, et les éléments plus difficiles pour nous pousser à trouver en lui notre secours, notre force et notre réconfort. Dieu est assez sage pour prendre soin de nous, et il le fait avec amour. Espérer en cet amour infaillible, c'est lui faire confiance, et justement nous allons parler de son amour. Je vous ai dit qu'on avait parlé de sa sagesse, c'est ce qu'on vient de faire, et nous allons parler de son amour aussi. Son amour. Quel est le plus grand attribut de Dieu, d'après vous ? Certains disent que c'est la sainteté, d'autres la souveraineté, et bien souvent nous entendons l'amour. Eh bien, aucune proposition n'est conciliable avec la Bible, car tous les attributs, de par leur caractère infini, sont essentiels à Dieu. Si on en diminue un, Dieu cesse d'être Dieu. Nous ne pouvons pas séparer les attributs de Dieu en quartiers comme on les fait d'une orange. On ne peut pas les séparer. Oui, des fois, on a besoin d'en parler de un, de l'autre, pour les comprendre. Ça, c'est vrai qu'on le fait. Mais en fait, Dieu, c'est toujours tout ensemble. Hein, si nous voulions une image, bien qu'imparfaite, nous devrions plutôt parler d'ingrédients d'un gâteau. Hein, parce que lorsque nous voyons le gâteau, les ingrédients s'entremêlent. Le goût vanillé se retrouve jusque dans chaque miette, par exemple. C'est imparfait l'image, hein, vous avez bien compris, puisqu'on n'a pas la même intensité ou le même composant de tous les ingrédients partout, en même quantité, etc. Alors que les attributs de Dieu, oui. Donc ça, c'est un élément important. Donc si on parle de l'amour de Dieu, si on parle de la sagesse, si on parle de la sainteté, c'est bien pour le comprendre, mais en fait c'est toujours le tout, c'est toujours ensemble. Il n'y en a pas un qu'on peut dire il est mieux, il est plus grand que l'autre, tout est infini en fait. Quelqu'un dit une paraphrase de ce que Dieu dit à ceux qui sont en Christ par sa parole. Et voici ce qu'il dit par rapport à son amour. Il dit « Je vous ai tellement aimé que j'ai envoyé mon Fils bien-aimé pour vous amener à moi, afin qu'en croyant cela, vous ayez une relation éternelle avec moi. Je serai votre Dieu, vous serez mes enfants. Entrez dans le repos et réjouissez-vous de ce que mon amour a fait pour vous transformer. » C'est l'amour de Dieu pour nous, en Christ. C'est l'évangile en fait. C'est vrai que parfois on peut résumer, l'évangile c'est l'amour de Dieu manifesté, c'est vrai. Il a envoyé son Fils avant même que nous l'aimions. Ça m'a toujours marqué, vous m'avez peut-être déjà entendu souvent parler, parce que ça marque tellement. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5:8. Christ par amour s'est incarné. Lui, le Dieu infini, est venu habiter sur terre, dans un corps fini. Un corps qui souffre. Certains le savent plus que d'autres. Il l'a fait par amour pour son peuple. Il a vécu une vie parfaite, sans aucun péché. Pourquoi il l'a vécu sans péché ? Par amour pour nous. Il a vécu la mort par amour pour son peuple, de qui il a porté la faute, détourné la colère de Dieu. Par amour encore, maintenant, il intercède auprès du Père pour son peuple. Et tout cela glorifie son Père. Dans son amour, Dieu nous a adoptés comme enfants légitimes. Et en fait, il nous donne un héritage. Bon, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, réfléchissez sur l'héritage qu'on reçoit en Dieu. C'est phénoménal. Mais je ne peux pas le faire maintenant parce que le temps passe. C'est lui qui nous a aimés le premier. Vous connaissez ce texte dans 1 Jean 4, 19. Hein, pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Donc si on se dit, j'ai pas d'amour, pas de panique. Allez à la source. Branchez-vous à la source de l'amour, qui est Dieu. Et ainsi, nous pourrons aimer. Par l'acte d'amour de la croix qui surpasse tout autre amour, Jésus détourne la juste colère de Dieu qui pèse sur les pécheurs repentants. Ça, c'est un acte d'amour qu'il a fait. Jésus est mort pour ceux qui croient en lui et il les délivre de la colère de Dieu qui va déverser de toute sa force lors du jugement et les tourments éternels. Les tourments éternels. J'ai vu qu'il y avait une fourmi qui s'appelait, je sais plus. J'ai plus le nom. Bon, on trouvera. Commence par P. Quand elle pique, il semble que c'est la douleur la plus horrible qu'on peut avoir de la part d'un animal. Mais une douleur terrible qui fait comme une brûlure, très 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 violente. Vous avez déjà eu des douleurs dans vos vies? Peut-être des maux de tête, des maux de ventre, ou des choses comme ça, des douleurs très violentes, des douleurs insupportables. Eh bien, c'est encore rien face au tourment éternel, loin de Dieu. L'idée que certains entendent que Christ est mort pour sauver et qu'ils refusent le message de l'évangile pour aller en enfer, moi j'ose pas trop souvent y penser. Hein. C'est insupportable en fait. C'est insupportable. Et si j'y pense, je me dis, mais quand je vous regarde, je dis, mais je vous supplie que personne ici ne refuse l'évangile, l'œuvre de Christ. Je ne connais pas vos cœurs, mais je connais une chose. C'est que Jésus ne refusera jamais celui qui vient à lui avec une crainte joyeuse. Il va lui manifester son amour. C'est lui qui nous transforme. C'est vers lui qu'il faut regarder. Comme le serpent d'airain dans le désert. Qu'est-ce qu'il faisait? Regardait, guéri. C'est juste impressionnant. C'est la foi. Et lorsque l'amour nous saisit, il nous presse à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Parce que quand on est saisi par cet amour, on a envie de vivre pour lui. Si tout à coup, ceux qui ont été amoureux une fois, peut-être c'est bien de le refaire dans le couple, hein, quand on est marié, et puis ceux qui l'ont encore pas été, vous pouvez imaginer, mais quand il y a tout à coup cet amour, ben, on a envie de faire quelque chose de bien pour l'autre. C'est magnifique. Mais avec Dieu, l'amour est bien plus grand encore. Un amour qui s'est donné. Si vous n'avez jamais éprouvé le moindre empressement à obéir au commandement de Dieu, il est temps de vous poser la question si véritablement l'amour de Christ vous a saisi. Si vous n'avez jamais éprouvé le moindre empressement à obéir, je veux lui obéir. Il est temps de vous poser la question si véritablement l'amour de Christ vous saisit. Car il est écrit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14, 21. En fait, ce que je souhaiterais, c'est que vous et moi, nous soyons si bouleversés par l'amour de Christ que cela nous pousse à ne plus vivre pour nous-mêmes. Pas parce qu'on nous le dit, pas parce qu'on dit, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je lis ça, ok, je veux le vivre. Non. Il m'aime tellement que je me pose même pas cette question. C'est ce que je vis. Nous sommes trop souvent motivés par un sentiment de devoir, d'obligation, ou même de dette à payer, plutôt que par l'amour. Seule la motivation de l'amour est agréable à Dieu. Et il se plaît à nous donner son amour, et à recevoir de l'amour de notre part. Son amour pour nous est celui que nous lui témoignons en retour, œuvre ensemble. Et je vous propose de chanter un chant ensemble maintenant. On ne fait pas souvent ça au milieu d'une prédication, mais... Pourquoi pas, hein? Le numéro 63. Numéro 63 qui nous parle de l'amour de Dieu, justement. Pour que nous puissions nous imprégner de cet amour. Le numéro 63. Si vous voulez, pour vous deux.
Il est plus grand que les espaces, même dans la vie.
Alors j'espère que vous avez été attentifs aux paroles de ce chant qui nous parle justement de cet amour de Dieu qui nous dépasse complètement. Donc ce Dieu que nous craignons est un Dieu sage, est un Dieu rempli d'amour que nous voulons saisir aussi pour nous. Et nous allons passer à la partie de comment craindre joyeusement Dieu justement. Nous avons parlé la dernière fois d'attiser la flamme de cette étincelle de la crainte de Dieu qu'il a mis en fait dans le cœur de tous ceux qui sont convertis. Puisque chaque croyant reçoit cette crainte de Dieu, nous l'avons vu la dernière fois. Et j'aimerais me pencher sur trois aspects influençant notre réponse à Dieu que nous révérons. La première, c'est sa présence, notre conscience de sa présence, ça sera un aspect. Deuxième, c'est notre dépendance à Dieu. Et troisièmement, notre bénédiction, son encouragement lorsque nous le craignons, sa bénédiction à notre égard. Or, une caractéristique d'une personne qui vit dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui passe toute sa vie dans la présence consciente de Dieu. Passer sa vie dans la présence consciente de Dieu. C'est ainsi qu'on vit la crainte de Dieu. Et j'aimerais s'arrêter brièvement sur la caractéristique que l'on intitule sa présence. On a lu le psaume 139 tout à l'heure, et les versets 7 à 10 nous disaient « Mais où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? Où? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » David, qui écrit ce psaume, est conscient de ne jamais sortir de la présence universelle de Dieu. On parle de l'omniprésence de Dieu. Où aller pour ne pas être en présence de Dieu? Nulle part. Dieu est partout. Quelqu'un a dit ceci, et j'aime bien cette phrase, parce qu'elle est impressionnante quand on commence à y réfléchir. La vie devient une affaire impressionnante dès lors qu'on sait qu'on passe chaque seconde de sa vie en compagnie et sous les yeux du Créateur omniscient et omniprésent. Chaque seconde. Avoir conscience de la présence de Dieu aide à résister à la tentation de péché. La conscience de sa présence pousse à une crainte qui produit l'intégrité. Cela devrait être une marque du croyant qui craint Dieu, de reconnaître, de se rappeler de sa présence. Dieu aime ses enfants malgré le fait qu'il connaît tout totalement d'eux. Il connaît nos pensées les plus terribles et nous aime. Nous sommes tous pécheurs, mais le chrétien est un pécheur pardonné en Christ. On ne peut pas dire un chrétien, c'est pas un pécheur. Ce serait faux, c'est malheureusement des fois l'idée qu'on veut donner. Non, nous sommes tous pécheurs. Le chrétien est un pécheur pardonné. Et nous désirons que ceux qui sont autour de nous le soient aussi. Donc parler à Dieu avec une honnêteté absolue. Nous avons critiqué ou calomnié. Admettons-le. Appelons un chat, comme on dit. Si nous avons gonflé notre note de frais professionnels, ou pris du temps de travail sur nos réseaux sociaux privés, acceptons le fait que nous venons de voler littéralement notre employeur. Repentons-nous, car le sang de Christ nous purifie de tout péché. David avait compris cette précieuse vérité libératrice. Il savait que Dieu savait tout de lui, mais qu'il ne l'aimait pas moins pour autant. Ça, c'est une vérité extraordinaire pour l'enfant de Dieu. Donc, comment s'exercer à avoir la conscience de la présence de Dieu alors? Alors, juste avant de réfléchir à ça, est-ce que vous pouvez vous dire, j'aurais fait différemment si j'avais été conscient que Dieu avait été à côté de moi à ce moment-là? Ça arrive là, que vous dites, je vais dans le passé, je dis, ah, j'aurais sûrement fait différemment si j'avais été conscient que Dieu était là. Mais alors, comment y penser? Ben, chacun va chercher son moyen de le faire. Il n'y a pas une seule façon de le faire, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire avec un... Pourquoi pas mettre un verset biblique au lieu de rendez-vous habituel du matin? Ça s'appelle le miroir. C'est un lieu de rendez-vous du matin, vous avez déjà vu, on va toujours là pour un petit peu se peigner, machin, on ne veut pas sortir. Mais oui, ben pourquoi pas à cet endroit-là nous aider à nous rappeler qu'on est devant Dieu. On peut le faire en répétant un verset biblique, on peut le faire en demandant à l'autre de nous parler de Dieu chaque jour. En lisant sa parole, la parole de Dieu, en ayant son culte personnel chaque jour, ça nous aide à nous rendre conscients de sa présence. En fait, vous savez, l'indépendance et l'autonomie sont caractéristiques de notre civilisation. Parce que c'est l'ADN du péché. Indépendant. Et dans cet ADN, on va retrouver l'incrédulité, l'égoïsme et l'orgueil. Je suis indépendant, je pense pouvoir vivre sans Dieu, j'en ai pas besoin. Combien de fois j'ai entendu ça quand je veux amener un traité qui parle de l'évangile, comme ça, je n'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut. Et ceci commence dès notre enfance. Par exemple, à 2 ans, un de mes mots favoris, c'est peut-être un de mes premiers, je peux demander à mes parents, ils sont là, je disais « Saubel ». C'est de suisse allemand estropié qui veut dire « tout seul, moi-même ». Tout seul, Saubel. C'est une caractéristique d'une personne qui ne craint pas Dieu. La caractéristique d'une personne qui craint Dieu est l'inverse. Elle vit dans une dépendance consciente vis-à-vis de Dieu. Avec Dieu, pas Saubel. Pas tout seul, avec Dieu. Et c'est notre deuxième sous-point, nous sommes dépendants. Non seulement conscient de sa présence, mais aussi maintenant, il faut se rendre compte qu'on est dépendant. Notre existence même dépend de Dieu. Si Dieu arrête votre cœur, paf, c'est fini. Vous êtes mort. Notre dépendance dépend, enfin notre existence dépend de Dieu. La dépendance aussi d'ailleurs. Le psaume 31 dit, mais mes destinées sont dans ta main. Chaque respiration est un don de Dieu. Craignons l'Éternel notre Dieu qui nous donne la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson, dit Jérémie dans le chapitre 5 au verset 24. C'est vrai que c'est un passage qui est destiné particulièrement aux personnes qui vivent dans un contexte d'agriculture. Aux premières loges pour constater ce que Dieu fait. Et les agriculteurs ou jardiniers ici présents se rendent bien compte qu'ils sont dépendants de la météo. Donc dépendants de Dieu. La Bible dit pas qu'on est dépendant de la météo. La Bible dit qu'on est dépendant de Dieu qui fait la météo. On doit toujours arriver à la cause première. C'est Dieu qui donne la pluie en son temps. On est reconnaissant pour la bénédiction qu'il nous donne. Mais pour ceux qui ont peu de contact avec la terre, comme les produits sont au supermarché, on se rend, c'est pas grave, c'est pas un problème ça, mais on se rend souvent plus compte de cette dépendance à Dieu. La dépendance totale vis-à-vis de Dieu est une leçon difficile. Parce que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons être indépendants. Ça, c'est le péché qui nous pousse à ça. La dépendance totale vis-à-vis de Dieu est une leçon difficile. Nous savons que nous devons travailler. Mais nous oublions vite que c'est Dieu qui nous en rend capables. Faut que je travaille. Puis là, on est en train de dire, j'y vais à fond. Mais même pour dire, je veux être dépendant de Dieu. En oubliant, mais que c'est Dieu en plus qui nous en rend capables. Sur quoi repose notre bonheur? Est-ce qu'il repose en entier sur Dieu? S'il ne se repose pas en entier sur Dieu, sur notre troisième pilier ou sur je sais quoi, est-ce que vraiment notre cœur est sincèrement appuyé sur Christ? Est-ce que nous n'allons pas craindre d'autre chose que Dieu? L'inflation, par exemple, avec le troisième pilier. C'est pas croire passivement que nous sommes dépendants de Dieu, nous devons activement lui faire confiance. Et vous savez comment on le fait? Une des premières choses, c'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui meurt. J'aime dire que la prière, c'est l'oxygénation, la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, il meurt. La prière, en fait, montre notre impuissance et la puissance de Dieu. Comme le roi Asa, qui fait face à ses ennemis et qui dit ceci, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. » Car c'est sur toi que nous nous appuyons, nous sommes venus en ton nom contre cette multitude éternelle, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. 2 Chroniques 14:10. En fait, souvent notre degré de confiance dépend de notre capacité à deviner comment Dieu va répondre à nos besoins, à prévoir les moyens qu'il va utiliser. Et si on voit comment Dieu va répondre, on a super confiance, parce qu'on dit « Ah ouais, il va le faire comme ça ». Mais quand on voit rien, est-ce qu'on a la même confiance? Comme l'officier du roi d'Israël, lorsqu'Élisée lui dit qu'il y aurait à manger le lendemain alors qu'on était en pleine famine. Une famine horrible. Il dit, mais quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? C'est, il l'a dit, hein. Il voyait pas le moyen pour que la prophétie s'accomplisse. Il n'y croyait donc pas. Et pourtant, le lendemain, il y eut à manger. L'officier l'a vu, mais il n'a pas pu en profiter. Or, quelques suggestions pour nous aider à cette notion de dépendance, c'est par exemple prendre le temps en début de journée pour reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu. C'est une bonne chose. Je pense que je vous ai déjà dit, et j'aime le répéter, le matin, quand vous vous réveillez, vous dites bonjour à Dieu, dites voilà, je te remercie que tu me donnes la vie. On est dépendant de lui. Dès le matin. On peut passer en revue la journée qu'on a vécue. Et dire, ah ben, en fait, tout ce que Dieu a fait, complètement dépendant de lui, dans tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. On peut lui remettre les imprévus. Lui, il les connaît. Nous pas. Prenons l'habitude de prier régulièrement pendant la journée. On est en train d'étudier Néhémie dans les études bibliques. Néhémie, il est tout à coup face au roi qui pose une question. Paf, il prie. Ah, ça fait partie de sa manière de vivre. En fait, c'est une manière dépendante de Dieu. Et surtout, prions aussi que Dieu nous aide à nous rendre encore plus conscience de sa dépendance. Ça, c'est ce qu'on peut aussi faire. Et ne nous décourageons pas. Parce qu'en fait, notre culture autour de nous, vous aurez toujours l'idée, on va vous dire, l'idée de la dépendance. Il faut l'enlever. Vous devez être indépendant. Vous entendrez ça tout le temps. Donc c'est normal, c'est des fois difficile de se dire, attends, mais non, moi je suis complètement dépendante de Dieu. La société va pas nous aider. Donc il faut pas se décourager, mais développer une attitude de dépendance jour après jour. Et ça vaut la peine. Parce que la conscience dépendante de Dieu nous permettra d'expérimenter de plus en plus la joie de le craindre. Et on n'aura pas une crainte, une grande peur de dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, on sera émerveillé de ses œuvres dans nos vies et autour de nous. La personne qui craint Dieu cherche à vivre toute sa vie pour la gloire de Dieu. Et le glorifier, c'est se lui répondre et refléter Dieu aux autres. Et nous arrivons à notre dernière partie, les bénédictions, ces bénédictions. Dans le psaume 27, au verset 4, David exprime le plaisir qu'il trouve en Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer ton temple. Et ce texte n'est pas isolé, si vous allez dans les psaumes. Il aime être près de lui. Nous réalisons maintenant que la crainte de Dieu, sa glorification et la jouissance de sa présence sont tellement liées qu'elles sont inséparables, en fait. C'est pourquoi nous pouvons vous parler de la joie de craindre Dieu. Être proche de lui, de vivre cela. En restant concret, aussi bien du point de vue théologique que de l'expérience. Nous avons étudié l'idéal vers lequel tendre. La barre sera quelque part toujours mise trop haute d'après nous, parce qu'en fait, on a besoin d'une direction. Mais nous allons persévérer dans cette direction. Et voici des promesses et des bénédictions qui nous encouragent. Premièrement, craindre Dieu est une source de bénédiction. Il est dit dans le psaume 112, verset 1, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Vous cherchez le bonheur? Craignez Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ou encore, deuxièmement, craindre Dieu est une source de protection. C'est une source de protection de craindre l'Éternel. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Psaume 33, 18. L'œil de l'Éternel, comme un maître nageur qui surveille la baignade au bord de la piscine. Un bon maître nageur, s'il voit quelque chose, il y a un petit problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste regarder puis continuer de discuter. Mais non! Il va tout de suite intervenir. Son œil est présent, il est actif. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Craindre Dieu, troisièmement, est une source de bienveillance. Une source de bienveillance. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 11. Qui est d'ailleurs le psaume qui nous parle du pardon de Dieu. La crainte de Dieu est une source de bienveillance. Or, repassons ces promesses dans notre cœur, qui nous poussent à craindre Dieu, mais avec joie. Parce qu'en fait, il y a de la joie à être près de Dieu. En fait, c'est vrai que comme du temps de Malachie, on ne considère souvent plus Dieu comme celui qui doit être craint, mais comme le moyen de combler nos besoins, de résoudre nos problèmes. En fait, on a de nombreux points communs avec les Juifs aussi du temps d'Ésaïe, hein, où il disait « Raconte-nous des choses agréables et par-dessus tout, cessez de nous confronter au sein d'Israël, qu'on ne parle plus de la crainte de Dieu. » En fait, mon désir, c'est que pour chacun d'entre nous, nous désirions cette crainte, nous désirions la vivre. Que nous grandissions dans ce domaine jusqu'au jour où nous entendrons ces paroles qui font notre plus grande joie. « Bien et bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » J'arrive à une courte conclusion de ces deux prédications. Donc pour retrouver le guide de ces deux prédications sujet et des sujets supplémentaires, si vous avez dit « j'aimerais bien lire un bon livre », eh bien le livre de Jerry Bridges, « La joie de craindre Dieu », eh bien sera très utile. Et vous permettra de creuser le sujet, d'encore vous y plonger et de voir d'autres éléments. Nous avons vu de grandes choses sur Dieu, sa grandeur, sa sainteté, sa sagesse, son amour. Qu'allons-nous faire de cela? Moi, je vous encourage à entrer dans la louange, de louer Dieu. Est-ce qu'on va choisir de vivre pour lui? Et ma prière, c'est que nous ayons une joie de craindre celui qui prend soin de nous, celui qui nous aime et qui a la parfaite sagesse de conduire toutes choses pour notre bien. Et nous allons prier en rendant gloire à notre Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, nous sentons bien petits devant toi et en même temps émerveillés. Ta sagesse nous dépasse complètement, mais en même temps nous fascine. Et Seigneur, j'aimerais te remercier. Et nous voyons des centaines, des milliers d'ingénieurs qui sont souvent fascinés par les mécanismes de tout ce qui se passe dans le monde, dans la nature, dans ta création. J'aimerais te prier, Seigneur, que pour chacun d'eux, ils reconnaissent que, waouh, tu es un Dieu tellement fantastique, au-dessus de nous. Nous pouvons te faire complètement confiance. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que nous puissions être saisis par cela, saisis par cette sagesse immense, que nous ne cherchions pas ailleurs des conseils. C'est toi qui peux les donner, c'est toi qui nous donnes la bonne direction, parce que tu es le parfait sage. J'aimerais te prier de nous aider aussi à saisir ton amour qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Pardon, Seigneur, pour les fois où nous allons chercher un amour ailleurs, un amour qui est fade, un amour qui disparaît tellement vite. Alors que toi, tu as un amour qui est parfait, infini. Et nous voulons, Seigneur, te prier de nous aider à nous réjouir et à saisir et à vivre cet amour que tu manifestes par ton Fils, que tu nous donnes un amour de Père qui prend soin de ses enfants, un Père parfait. Ô Éternel, nous te prions vraiment d'entrer dans cette compréhension et cette notion de notre dépendance de toi, de cette notion que tout vient de toi. Et nous voulons, Seigneur, saisir les bénédictions que tu nous donnes. Oui, c'est vrai, tu veux nous bénir. Tu l'as dit dans ta parole et tu le fais. Et nous sommes conscients, quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons ce que nous vivons, de tellement de bénédictions dont nous sommes déjà les bénéficiaires. Et nous nous réjouissons du jour où nous entrerons dans une joie parfaite et complète, libérés de tout péché. Oh, sois loué, béni, et permets, Seigneur, que nous puissions te craindre avec joie. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.